Alors, je crois qu'on a une question sur le cinéma d'un de nos auditeurs.
Oui, bonjour Eddy.
Bonjour.
Dans vos projets futurs, est-ce que vous pensez faire un film avec votre ami Jean Dujardin ?
Non, de toute façon, j'ai pas de projet parce que l'histoire du théâtre, ça va m'emmener jusqu'au mois de juin. Et donc après, je prendrai peut-être un petit peu de vacances, vous voyez. ça risque d'arriver. Et donc j'ai pas de projet, mais j'aimerais bien tourner avec Jean. Ouais. Parce que j'ai failli tourner avec lui quand il a fait Lucky Luke. Je devais faire Just Jamon. Et puis le scénario a changé, puis j'étais pas libre, puis voilà. Donc,
D'accord. Merci beaucoup.
Mais je vous en prie.
Parce qu'on sent que sur cet album, vous vous entendez
très bien. Oui. Ah ben oui.
Justement, à propos de Johnny Hallyday, là, vous êtes amis depuis très très longtemps, mais ça remonte à quand, ça? Parce que tout le monde avait l'impression que c'était une histoire musicale, mais ça date de bien avant.
Moi, je suis l'aîné, n'est-ce pas? Donc, j'avais 15 ans et lui 14, donc ça remonte.
Et vous vous êtes connu lorsque vous habitiez le même quartier à Paris?
Non, on fréquentait les mêmes endroits. C'est-à-dire que lui, il habitait rue des Martyrs, vers la Chaussée d'Antin, donc. Et moi, j'habite à Belleville, et puis donc c'est le Golfe de Roux qui nous a un peu réunis, parce que le Golfe de Roux était un endroit quand même marrant et qu'on a quand même découvert d'une façon étrange, parce que moi j'étais coursier au Crédit Lyonnais et donc j'allais pas travailler, bien sûr, et donc j'étais tout le temps fourré dehors, soit au Paris Swing où il y avait des flippers extraordinaires, ou bien un jour je suis monté au Golf de Roux, qui était un vrai golf miniature où des gens âgés, pour nous tout au moins, venaient prendre le thé. Et puis on avait remarqué qu'il y avait un jukebox extraordinaire qui reste d'ailleurs aujourd'hui, qui restera un objet formidable avec un son mono fantastique. Et on a dit, putain, si on amène nos disques là, ça, on va les entendre d'une manière un petit peu plus sympathique que chez nous. Et on a demandé, ouais, pas de problème. Et du coup ça a rameuté tout le monde, quoi.
Donc sur la musique, justement, on a une question d'un de nos auditeurs.
Oui, bonjour, maître.
Bonjour.
Moi, je suis devenu fan d'un artiste un petit peu par votre faute, parce qu'il est mort avant que je naisse, qui s'appelait Eugène Cradock-Vincent.
Ah oui.
Et je voulais vous poser une question. Serait-il envisageable qu'un jour vous enregistrez un titre ou un album avec les Blue Caps restants, comme Dicky Harrell par exemple, à batterie?
Je vois pas beaucoup l'intérêt de tout cela. Hein. Parce que non, c'est évidemment, c'est toute ma jeunesse, c'est extraordinaire. Mais je veux dire, des batteurs formidables, ça manque pas. Vous savez, Dicky Harrell n'est pas... c'est un bon batteur, mais c'est pas non plus. C'est un batteur de légende, on va dire. Voilà. Mais c'est pas une brute, quoi.
Merci.
De rien.
Alors tout à l'heure, on parlait justement de la scène française, et en regardant votre discographie, on voit que quelquefois, alors vous êtes resté très fidèle à Pierre Papadiamandis, vous avez toujours, enfin souvent travaillé ensemble, c'est la plupart de votre discographie, mais quelquefois, il y a une chanson avec Christophe, il y en a une autre. Quelques-unes avec Mort Schumann aussi.
Et puis beaucoup même avec Mort.
Voilà, ouais. Oui, tout à fait. Et puis, il y a aussi cette chanson assez surprenante avec Woolsey Souchon sur l'album précédent. Alors, pourquoi vous n'avez pas souvent été chercher un petit peu là? C'est par manque de...
Parce que, je veux vous dire, c'est que souvent, quand les gens... On m'a souvent proposé des textes, des trucs, etc. Et souvent, les gens... vous classe, vous savez, c'est le problème des étiquettes en France. Et par exemple, après, je ne citerai pas les noms, mais on m'a amené je ne sais combien de « Tu peux préparer le café noir » après l'avoir fait. Des dernières séances, j'en ai eu des kilos. Des mentalos, bon, il y en a eu aussi. Donc, c'est vrai que les gens manquent un peu d'imagination. Et là, le fait de Woolsey Souchon, c'était génial parce que, je trouve, hein, c'est un texte que j'aurais pu écrire, mais justement... Va aller mieux pas, parce que ça fait ramenard. Donc, que ça soit écrit par quelqu'un d'autre, c'est formidable.
Surtout que cette chanson est particulièrement, je veux dire, réussie dans le sens où c'est vrai, comme vous le dites, c'est pour vous, c'est une chanson pour vous,
oui.
Mais écrite de l'extérieur avec cette petite touche.
Justement, ça, c'est très joli. C'est le talent de Souchon, hein, c'est le talent d'Alain. Mais je dis bien, si moi je l'avais écrit, on aurait dit, putain, il se voit beau, quoi.
Et justement, dans toutes ces rencontres artistiques, je me suis dit, en réécoutant pas mal de vos chansons, mais comment ça se fait que vous n'avez jamais rien fait avec Francis Cabrel, par exemple,
dont Ah, ben, bah, c'est marrant de vous en parler. Et Francis m'a contacté au moment où je préparais l'album. Mais lui, comme il était en même temps sur... c'est le soldat rose, vert, jaune...
C'est le soldat rose.
Rose. Voilà. Non, parce que je crois qu'il était devenu bleu.
Oui, il a changé de couleur, c'est vrai. Hein. Je ne connais pas la nouvelle couleur, mais bon. Il a changé de couleur.
Bon, ouais, je ne dis pas de bêtises, quand même. Et il voulait m'écrire une chanson, mais comme il était écartelé entre toute la préparation du soldat bleu, je me tiens bien, soldat bleu.
Tout à fait.
Et donc, il m'a fait des trucs, mais qui n'étaient pas achevés, qui étaient un démarrage. Qu'est-ce que t'en penses? Je dis, continue. Puis, j'ai pas le temps, une autre fois.
Ah, d'accord. Donc, c'est dans les projets. Alors.
Oui, c'est dans les tuyaux, comme on dit.
Et puis, il y a un autre artiste que vous avez côtoyé, mais pas reprise, Michel Jonas. Alors, deux reprises fabuleuses.
Ah, oui, enfin,
moi, c'est mon avis, reprise, Lucie, ouais. du blues.
Lucie, oui.
Juste en reprise. Alors, Jonas, vous avez pas eu envie qu'il vous écrive?
Si, il m'avait écrit un truc qui était sur un album où je jouais au billard. J'ai retrouvé. Il m'a écrit une chanson qui était vraiment une chanson d'album, qui était formidable d'ailleurs, je trouve, qui s'appelait Le fils de Jerry Lee Lewis.
Ah oui.
Et oui.
Ah, c'est de lui.
Oui.
Ah, d'accord. Ah, bah, je ne l'avais pas vue celle-là. Elle m'a échappé. Mais il faut dire que vous avez une discographie.
Bah oui, elle a failli m'échapper, voyez. Vous êtes excusé.
Et donc justement, là, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des projets musicaux qui vous tiennent à cœur, qui pourraient être irréalisables sur scène, par exemple, quelque chose d'un petit peu différent ou gargantuesque, peut-être?
Je ne sais pas, j'ai bien envie de... Mais je ne sais pas quand j'aurai le temps, parce que ça demande un boulot en amont extraordinaire, c'est de faire un album numéro 2, on va dire, de grand écran. C'est-à-dire faire la musique de film. Mais on s'était tellement kikiné pour le premier que je ne sais pas si j'aurais la patience de nous refaire un autre. Enfin, on s'était kikiné pour les droits, c'était un enfer. C'était beaucoup plus facile d'adapter un Saint-Jean d'hiver, vous voyez, que la mer, ou que comment les feuilles mortes, où on n'a eu que des soucis. Voilà.
Et lorsque vous regardez cette discographie conséquente, comme je le disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a un moment privilégié pour vous, un album que vous chérissez particulièrement, et éventuellement pour quelle raison?
Il y a Le cimetière des éléphants. Parce que c'est une chanson qui se démode pas. Enfin, c'est bizarre de dire ça. Et puis qui ne peut pas bouger. C'est-à-dire que c'est pas une chanson qu'on peut réadapter, qu'on peut... Si vous enlevez le solo de saxo, qui fait partie intégrante de la chanson, de la mélodie, disons, vous êtes à côté, c'est une autre chanson, quoi. On est à côté. Et le souvenir que j'ai, c'est que j'avais fait deux versions de cette chanson, une à Los Angeles et une à New York, et que finalement, celle de New York a failli ne pas voir le jour parce que je ne m'étais pas du tout entendu avec les musiciens. Voilà. C'était des problèmes de sniff, vous voyez. Steve Gadd qui demandait sa petite dose. Je dis, moi, je suis pas dealer, donc ça commençait mal, quoi, vous voyez. Et puis bon, et Richard T qui pareil, moi je mange ceci, cela. Je dis, tu manges ce que tu veux chez toi, mais bon, donc on travaille ou on fout rien, quoi. Donc j'avais failli les foutre dehors, et c'est nos femmes respectives, c'est-à-dire Madame Papa Diamandis, Anouk, et puis Muriel, ma femme, qui ont dit non, attends, c'est bien, non, calme-toi, bon, d'accord.
Alors c'est grâce à elle que ces deux versions existent.
Ouais.
Et puis pareil pour la scène, est-ce qu'il y a vraiment une tournée particulière? Alors j'ai presque une suggestion à vous faire, je pense 94, à cette époque où vous aviez joué des versions différentes à Paris.
Ah oui, ça. Alors, mais il y a surtout la dernière qui était extraordinaire. La dernière tournée était formidable. En plus, j'avais réussi à avoir les arrangements que je voulais grâce à Michel Gaucher, l'orchestre que je désirais. Et donc j'étais gâté, quoi.
Et c'était quand même sacrément culotté de sortir un live du dernier concert à l'Olympia.
Pourquoi?
Je trouve ça exceptionnel. Moi, personnellement, je trouve que c'est énorme de se dire le dernier jour, je vais enregistrer le dernier jour.
Ah oui, bah, ça aurait pu, ça passe sous sa casse, quoi.
Mais c'est, enfin, et en plus, quand on écoute votre voix sur Comeback, on sent que là, c'est... On sent que vous, ce ne sont pas des paroles en l'air. Moi,
non,
c'est ce que je ressens quand j'écoute cette version-là.
Mais c'est vrai, donc c'était un pari. C'est vrai que c'est un peu gonflé, quoi. Parce que alors, généralement, un live, on le fait sur 4-5 jours. Hein, que là, on enregistre le dernier jour, au revoir.
Je crois que ça résume assez bien votre personnage. Je ne pense pas que les auditeurs seront d'un avis différent. Pour terminer, j'aimerais vous faire passer par un espèce d'examen qu'on fait à chaque fois ici, qui est toujours le même. Hein, c'est-à-dire on va prendre 5 de vos chansons qu'on affectionne particulièrement. Et si vous nous donnez une anecdote sur chacune d'entre elles, on sera immensément ravis. Je vous les cite.
Je vais essayer.
La dernière séance.
C'est marrant parce que je me souviens que Pierre Papadiamandis qui a donc écrit la musique, était pas fou des paroles parce qu'il me disait ouais mais t'as déjà raconté ça plus ou moins dans une chanson. Il dit en quoi ? Dans une chanson qui était une face B de Pat Boogie Woogie, c'est vous dire, qui s'appelait C'est OK, où je citais qu'un cinéma allait fermer. Je dis bon bah on a quand même le droit, s'il te plaît, de se plagier, quoi, flûte.
La fille du motel.
La fille du motel, c'est ça, c'est tous les, comment dirais-je, les artistes, quels qu'ils soient, qui sont en tournée. C'est le passage obligé, ça, des horaires, très bizarres, et de rencontrer des gens qui sont à moitié endormis ou fatigués, et qui font quand même, non pas par le figure, et qui essayent d'être gentils, d'être aimables, mais on sent que ça les pèse, quoi. Et ça, c'est l'histoire de la fille du motel.
Sur la route de Memphis.
Sur la route de Memphis, ben ça n'a rien à voir. C'est rien à voir avec le texte original, d'ailleurs. Sur la route de Memphis, c'est en voyant le film Look la main froide, avec Paul Newman, où à un moment, il est poursuivi par des chiens, et puis on va lui mettre les menottes, etc. Et ça m'a inspiré, quoi.
Il ne rentre pas ce soir.
Il ne rentre pas ce soir, ça c'est beaucoup plus facile, parce que, comme je l'ai souvent dit, j'ai durci le trait. Parce que quand on fait une chanson, on n'a pas beaucoup de temps pour s'exprimer. Et donc j'ai durci le trait, mais c'était une époque où ma maison de disques, pour la cité d'ailleurs, c'était Barclay, venait d'être achetée par Philips, qui a été d'ailleurs, qui n'existe plus, tout ça n'existe plus, bien sûr. Et il y avait une chasse aux sorcières, quoi. Chasseurs de têtes qui en coupaient plutôt qu'en cherchaient, quoi. Et donc tout le monde était sur le qui-vive, à savoir est-ce que je vais être viré, est-ce que je ne vais pas être viré. Et c'était, ce qui était amusant, mais qui ne l'est pas, c'est que ce n'était pas du tout des gens dans le besoin hein, qui ramaient. C'était quand même des gens qui touchaient un salaire assez conséquent, qui avaient pignon sur rue, bagnole, etc. Donc je n'ai pas raconté non plus l'histoire tragique d'un chômeur. J'ai raconté l'histoire passionnante d'un cadre. Quoi. Et c'est incroyable que cette chanson soit malheureusement toujours d'époque.
Tout à fait. Et Couleur Mentalo.
Couleur Mentalo, je vais vous dire tout simplement que la Couleur Mentalo, je ne sais pas ce qui se m'est arrivé. Je ne sais pas.
Alors ça tombe bien parce que j'en avais une sixième. En fait, j'avais dit cinq, mais il y en a une à laquelle je tenais un peu. C'est ce duo avec Gainsbourg, formidable, sur Vieille Canaille.
Ah bah oui, bah ça c'est parce que je suis un fou de cette chanson, qui est une vieille chanson. Et toutes les versions que je connais, sont formidables et surtout celle de Louis Armstrong avec Louis Jordan et c'est vraiment formidable et c'est une chanson qui vous met une banane qui est drôle, qui est méchante en même temps mais qui est amusante et même la version par exemple de Fats Domino aussi est géniale et donc quand j'avais toujours eu envie de la faire mais je disais ça c'est un duo de mecs en plus donc j'ai vu avec Serge et Serge m'a dit, ok, puis il la connaissait. Et en plus, le truc qui est amusant, c'est que moi, j'étais persuadé, et je lui disais, mais ça va te faire gagner des sous, parce que il me dit, mais c'est pas moi qui ai écrit le texte. C'est drôle, parce que pour le commun des mortels, je veux dire, on l'attribue tout le temps à Serge. Mais c'est pas lui du tout, c'est Jacques Plante qui avait écrit le texte.
Ah, d'accord.
Qui avait fait l'adaptation.
Ah, j'étais convaincu que c'était de Gainsbourg.
Ah non, c'est pas de Serge du tout. Okay. Et oui, et le truc qui a été amusant, c'est qu'on a enregistré ça vite fait, bien fait, et très rapidement, parce que moi j'étais très pris, lui aussi, et on a fait un truc qu'on fait rarement, on a enregistré vers 10h30 du matin. Donc c'est pas un horaire pour un chanteur, mais on l'a fait. Et j'avais amené des provisions, c'est-à-dire comme lui était très champagne et comment dire, bourbon, j'avais donc amené, lui m'avait amené le whisky, puis on n'a rien bu finalement.
Merci Eddy Mitchell.
Merci.
Merci à vous.